Rapprocher d'Einstein et Kelsen semble a priori relativement naturel, et je ne serai pas le premier à le faire, d'abord parce que ce sont deux des plus grandes figures de la théorie juridique et deux des plus grandes figures du positivisme juridique. Mais mon angle d'approche ne va pas être celui d'une histoire de la philosophie du droit, celle d'une histoire du courant positiviste, mais je vais plutôt tenter d'esquisser ce qui peut être une histoire des mentalités juridiques ou certains éléments de l'histoire des concepts théoriques juridiques à travers la comparaison de Bentham et Kelsen. Alors cette comparaison, évidemment, est obérée par un problème méthodologique qui est la difficulté consistant à trouver chez l'un ou chez l'autre des traits faciles pour les rapprocher ou pour les opposer, et au bout du compte, finalement, on n'analyse pas vraiment l'œuvre de l'un ou de l'autre, mais plutôt ce qu'on a sélectionné dans chacune de ces œuvres, et finalement, j'analyse ma pensée, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Donc, ce que je vais essayer de faire plus modestement qu'une démonstration rigoureuse, c'est de prendre l'ordre des impressions de lecture, des annotations que je mettais inlassablement en lisant, relisant Kelsen et Bentham alternativement, essayer de les mettre en ordre et essayer de montrer qu'on peut en tirer quelques enseignements du point de vue de la démarche intellectuelle, en quoi consiste pour des juristes la création, l'imagination de concepts juridiques et des concepts théoriques dont ils se dotent pour appréhender les phénomènes juridiques. Donc j'ai repéré un certain nombre de proximités entre ces auteurs, et j'en utiliserai trois, c'est pour ça que j'ai parlé de normativisme viennois plutôt que de Kelsen seul, Bentham d'une part, Kelsen d'autre part, et puis Adolf Merkel, qui est l'un des disciples de Kelsen, et disciple qui a considérablement apporté à la théorie pure du droit, considérablement fait évoluer la théorie pure du droit de Kelsen. Sur le plan historique, évidemment, les rapports entre différents auteurs ne présentent pas un intérêt massif. Bentham, évidemment, jamais rencontré Kelsen et Merkel. Kelsen et Merkel, évidemment, se sont rencontrés et ont beaucoup travaillé ensemble. Sur le plan intellectuel, les rapports sont très faibles entre Bentham et les deux autres, puisque les deux Viennois citent très peu Bentham, et lorsqu'ils le citent, c'est uniquement sur des aspects qui ne sont pas relatifs à la théorie juridique de Bentham. Donc, à peu près, aucun rapport, ni physique, ni intellectuel, entre ces différents auteurs, évidemment, entre Kelsen et Bentham et Merkel. Ça tient notamment, Malik y a fait allusion, à l'état de la publication des œuvres de Bentham. Le principal ouvrage de théorie juridique de Bentham, Of Laws in General, qui va être republié avec des corrections cette année, n'a été découvert qu'en 1945. Et donc, l'essentiel de la théorie pure du droit, de l'œuvre de Kelsen, de l'œuvre de Merkel, est déjà posé au début, on peut dire, de la décennie des années 20 et dans les années 30. Et donc, l'impact de la publication du bouquin de Kelsen, de Bentham, n'a pas été du coup influent. Mais dans le même temps, le titre que j'ai choisi d'une mise en rapport sur le plan conceptuel de ces auteurs peut se passer de l'absence de rapport historique. Ça ne pose aucun problème. Et à plus forte raison, le fait même qu'il n'y ait aucun contact entre ces auteurs est d'autant plus significatif pour l'étude des mentalités juridiques. Ça permet d'autant plus de mettre en évidence des proximités, des tournures de raisonnement, des connexions conceptuelles entre ces auteurs. Et c'est d'autant plus révélateur que ces auteurs ne se parlent pas, en réalité. Et au bout du compte, on aboutit à l'identification de certaines lignes conceptuelles qui s'imposent presque malgré eux dans chacune des œuvres de ces auteurs. Alors pour structurer toutes ces remarques de lecture, j'ai choisi de m'orienter, d'axer la réflexion autour de deux thèses qu'on trouve chez Kelsen. La première, on la trouve dès le début de son œuvre, et elle ne bougera pas jusqu'à la fin de sa vie. Donc sa première œuvre, c'est 1911, et jusqu'à la fin de sa vie, 1973 pour la dernière œuvre, 1973 pour la fin de sa vie, 1979 pour la publication de sa dernière œuvre de manière posthume. Cette thèse n'évolue pas. C'est la thèse selon laquelle l'intégralité des phénomènes juridiques peut être appréhendée au moyen d'un unique concept, le concept de normes juridiques. Et tout l'ordre juridique peut être décomposé en normes juridiques. La seconde thèse de Kelsen, elle n'est apparue qu'à une époque postérieure. Et elle n'est apparue que sous l'impulsion de Merkel. C'est parce que Merkel est venu parasiter la trame originelle de la théorie pure du droit que Kelsen est venu à soutenir cette thèse. Cette thèse, c'est la théorie dynamique du droit, que Kelsen reprend de Merkel, et il le dit très clairement, à partir des années. Et en gros, dans Das Problem der Souveränität, Kelsen dit la chose suivante. Il remarque, contre ce qu'il soutenait auparavant, que de la constitution à l'acte juridique, il n'existe pas de solution de continuité, mais une structure unitaire à degrés. Le fait de ne voir le droit que sous la forme générale de la loi est un préjugé, et que de la constitution à la loi, du règlement à l'acte administratif et à l'acte juridique de droit privé, s'opère la concrétisation et l'individualisation continue du droit, sa progression d'une forme plus générale, la constitution, vers la plus particulière, celle des droits et obligations subjectives. Et tout ça, Kelsen en fait crédit à Merkel. Donc je vais m'appuyer sur ces deux thèses pour comparer Bentham, Kelsen et Merkel. D'abord, la thèse de l'uniformité des entités juridiques. C'est une thèse conceptuelle. Selon quelle que soit l'extension qu'on donne à l'expression, le droit peut être compris, analysé, comme un ensemble de ces entités juridiques élémentaires que Bentham, Kelsen, Merkel identifient. Et c'est une problématique qu'on trouve formulée de manière extrêmement claire, brutale, explicite, chez Bentham d'une part, chez Kelsen d'autre part, et dans des termes et dans des exceptions relativement voisines. Bentham note par exemple que l'une de ses préoccupations dans l'introduction au principe de morale et de législation, c'est s'assurer quelle sorte de chose est une règle de droit, quelle partie on y trouve, ce qu'elle doit contenir de façon à être complète. Et puis, dans Proflows, il écrit « L'idée que je tente d'exprimer est la suivante, de quelle quantité de matière sont constituées les règles de droit et les textes de loi pour que l'on obtienne un commandement ou un contre-commandement et rien de plus. » Donc l'idée, c'est comment découper le matériau juridique brut fourni par le langage des législateurs, des juges, des autorités, en unités relativement fonctionnelles, et comment trouver une forme canonique, une seule, à laquelle on réduise tout ce que disent les autorités juridiques. Et chez Kelsen, donc, dans son premier livre, « Au problème », la problématique est exactement la même. Il s'agit de résoudre, dissoudre tous les problèmes de la doctrine juridique de l'époque, donc problème de la personnalité morale, l'autolimitation de l'État, la personnalité des organes de l'État, le droit subjectif, la représentation, tous les résoudre à partir de la théorie de la proposition juridique, donc la théorie de l'unité juridique fondamentale qui sera chez Kelsen la proposition juridique ou la Rechtssatz. Et le titre de la deuxième thèse de Kelsen est donc « Problèmes fondamentaux de la doctrine du droit public développés à partir de la théorie de la proposition juridique ». C'est vraiment la clé d'analyse fondamentale. Et Kelsen pose une question identique à celle de Bentham. La question « Quand une proposition concrète d'une quelconque loi au sens formel constitue-t-elle matériellement une obligation, c'est-à-dire une norme juridique ? Comment, à partir du matériau brut fourni par le langage des acteurs du droit, on peut composer une unité juridique élémentaire ? Et comment on peut analyser l'ensemble du droit en normes juridiques ? Donc c'est une perspective qui est, chez l'un comme chez l'autre, clairement formulée, chez l'un comme chez l'autre, constructiviste. L'idée, c'est que l'observateur ne ratifie pas seulement, ne prend pas seulement compte ou ne prend pas seulement acte du découpage du matériau juridique tel qu'il apparaît dans le langage des acteurs du droit, mais le reconstruit, le redécoupe, le réélabore et le redécoupe sur le plan ontologique en unité intellectuellement maniable. Et chez l'un comme chez l'autre, l'idée qu'il y a là un travail intellectuel, qu'il y a là des décisions conceptuelles à prendre, donc que ces définitions, cette ontologie du droit sont stipulatives et que le juriste pourrait très bien en adopter d'autres s'il le voulait ou s'il le trouvait plus commode, sont clairement affirmées. Et la relativité de l'ontologie, le caractère stipulatif de l'ontologie, est très net chez Bentham. Par exemple, à propos d'autres éléments, mais qu'il transpose à sa théorie juridique, il dit la chose suivante. On s'est à plusieurs reprises demandé ce qui, dans tel cas, constitue un seul acte, où un acte s'est terminé et où un autre acte a commencé. Quand un acte et un seul s'est produit, ou quand plusieurs actes se sont produits. Et c'est la même chose pour distinguer des règles de droit ou des lois. Quand commence une loi, quand finit une loi, quand est-ce qu'on a deux lois ou une loi et un fragment d'autre loi. Il dit la chose suivante, il est des occasions où l'on ne peut répondre que d'une façon, la réponse dépendra de la nature de l'occasion et du but dans lequel on se propose d'examiner la question. Quelqu'un est blessé à deux doigts d'un seul coup. S'agit-il d'une seule blessure ou de plusieurs ? Et Bentham, il donne une autre série d'exemples. Et du point de vue juridique, la question va être à peu près la même. À partir de quand on est en présence d'une loi, ou plutôt de deux lois, ou plutôt d'une loi et d'un fragment de loi, ou simplement d'une loi incomplète, d'un morceau de loi qu'il faudra rattacher à d'autres pour avoir une loi complète. Et Kelsen dit exactement la même chose, donc avec un arrière-plan philosophique extrêmement différent. Bentham est plutôt dans la tradition de Locke et Hume, Kelsen se situe au début de sa vie dans la tradition kantienne. Mais chez les uns et les autres, il y a bien des décisions conceptuelles qui font qu'on découpe le matériau juridique brut de tel ou tel même. Et pour les deux, le découpage intellectuel du matériau juridique est complètement indépendant de la manière dont est formulé le droit par les acteurs juridiques. Donc l'entité juridique conceptuelle est différente de son support physique, c'est-à-dire de la manière dont est rédigée la loi. Bentham dit par exemple, le sujet de ces questions, c'est l'entité logique, idéale, intellectuelle et non l'entité physique. La règle du droit et non le texte de loi. Et on trouve chez Kelsen à peu près la même idée. Vouloir identifier la proposition juridique, donc la manière dont lui nomme l'entité juridique fondamentale, laquelle doit être construite uniquement à partir de lois concrètes, donc vouloir identifier la proposition juridique avec une des propositions au sens grammatical au moyen desquelles les lois concrètes sont construites, serait une grave erreur. Le problème de la construction juridique est de composer la norme idéale à partir de ces éléments. Mais en tout cas, c'est indépendant et n'est pas du tout tenu par la phrase du législateur. Donc le concept de loi ou de règle de droit retenu par Bentham a été exposé par Malik, c'est l'expression de la volonté du souverain, d'un son âge de signe déclaratif d'une volition conçue ou adoptée par le souverain. La Rechtsstaat de Kelsen, c'est une proposition qui présente de la manière suivante. À certaines conditions, l'État veut réaliser certaines actions. Et ces actions, c'est sanctionner. Donc en gros, si quelqu'un commet ce qu'on appellera un délit, alors l'État doit le sanctionner. Donc chez l'un et l'autre, on assiste à une forme de monisme conceptuel. Chez l'un comme l'autre, il y a une seule grille d'analyse du phénomène juridique, la loi chez Bentham, la Rechtsstaat chez Kelsen. Je ne laisse pas d'improvisation parce que j'avais surligné ce qu'il fallait. Donc ça, ça tient chez Kelsen, chez Bentham tout le temps. Chez Kelsen, ça tient jusqu'à la fin des années, au milieu des années 60. Et là, Kelsen va admettre quatre types de normes juridiques. Et non seulement des normes prescriptives, mais des normes d'abrogation, des normes permissives et des normes d'habilitation. Le réductionnisme est très prononcé chez l'un comme chez l'autre parce que tout énoncé juridique peut se réduire à une chose, l'obligation. Donc les deux ont une théorie plutôt prescriptiviste du droit, plutôt coercitive du droit. Tout se réduit à l'obligation qui n'est autre que la forme même de la norme juridique ou de la loi chez l'État. Et par exemple, le droit subjectif est réduit sans difficulté à l'obligation. Avoir un droit, c'est tout simplement avoir droit à ce que quelqu'un remplisse l'obligation qu'il a vis-à-vis de nous. Donc avoir un droit, c'est simplement l'obligation de l'autre exprimée d'une autre manière, et au bout du compte, tout se réduit, je simplifie un petit peu, tout se réduit à l'obligation. Donc, cette première thèse me semble étayer chez l'un et l'autre unité des entités juridiques fondamentales, unité de l'entité juridique élémentaire. Et dans ce sens-là, on peut dire que Bentham et Kelsen sont tous les deux des normativistes. Mais on peut avoir au moins trois visions du normativisme, trois degrés. Première idée, premier normativisme, le droit se compose d'une sorte d'entité juridique et une seule sorte. Là, je pense qu'indéniablement, Bentham et Kelsen sont des tenants de cette forme de normativisme. Deuxième idée, deuxième type de normativisme, le droit se compose uniquement de normes prescriptives, donc de normes qui imposent des obligations. Ça éloigne, par exemple, une théorie comme celle d'Herbert Hart, qui va distinguer des règles primaires qui imposent des obligations, des règles secondaires qui confèrent des droits. Troisième type de normativisme, le droit n'est composé que de normes prescriptives et de normes générales et abstraites, et uniquement de ces normes. Et ça exclut, par exemple, l'idée qu'il puisse y avoir des normes individuelles ou des normes concrètes. Donc, incontestablement, Bentham et Kelsen sont des tenants de la première thèse. Ils semblent se prononcer prononcé expressément pour la deuxième, donc le droit est composé uniquement de normes, vous dénoncez enfin, de lois prescriptives. Et en même temps, il me semble que chez l'un et l'autre, sans qu'ils le veuillent, la troisième thèse qu'ils refusent va les conduire à remettre en cause la deuxième. Et ce qui est intéressant, ce que je voudrais souligner dans la suite de la communication, c'est qu'en adoptant la vision dynamique du droit, c'est-à-dire en refusant l'idée qu'il n'y a que des normes prescriptives et des normes générales, mécaniquement, malgré eux, ils sont conduits, et c'est intéressant de voir que les deux y sont conduits sans communiquer l'un avec l'autre, ils sont conduits à rejeter l'idée qu'il n'y a que des normes prescriptives dans le phénomène juridique, ils sont conduits à enrichir la population conceptuelle dont ils se dotent pour analyser le phénomène juridique. Donc cette thèse dynamique, cette thèse du caractère dynamique du droit, fait l'objet de présentations relativement confuses chez Kelsen, pardon, mais au moins c'est explicite. Même Kelsen dit clairement, je propose une théorie du droit dynamique, et il le fait à la suite de Merkel. C'est vraiment Merkel qui est l'inventeur de la théorie, Kelsen la reprend, en avance sa lettre au début, puis beaucoup moins par la suite, et voilà comment on peut la définir, par quelques caractéristiques. La première idée, pour identifier le caractère dynamique du droit, c'est que les phénomènes juridiques ne se réalisent pas de manière spontanée, instantanée, immédiate, mais progressivement. Et donc, ils se forment graduellement. Il y a une progression dans l'élaboration du monde. Alors, chez Kelsen, dans ses premiers travaux, c'est complètement exclu. Pour lui, le droit, c'est la loi, donc il est très fidèle au Gesetz Positivismus de la fin du 19e en Allemagne. Et les applications de la règle de droit sont d'avance contenues dans la loi générale. Par exemple, c'est un tenant du syllogisme judiciaire. La décision « le voleur du pont doit être puni » est contenue pour lui dans la norme générale « tous les voleurs doivent être punis ». Et pour lui, il n'y a pas du tout une création de droit au niveau de la norme individuelle. Et il dit « il est nécessaire que ce soit sous la forme de la loi, donc de la loi formelle, qu'apparaisse toute volonté conditionnée de l'État qui représente le contenu de la proposition générale ». Et la contestation la plus brutale de cette vision des choses, elle vient de Merkel, donc l'ami, le disciple de Kelsen. Et lui, il considère que le fait que la loi ne dise pas tout pour le cas individuel s'explique parce que celle-ci ne peut pas tout dire, parce qu'elle ne veut pas tout dire, parce qu'elle veut seulement être une forme dans le processus de formation du droit, une forme encore relativement générale, c'est-à-dire non individualisée. L'application du droit, que nous étions accoutumés à considérer comme une fonction subalterne vis-à-vis de la loi, devient un acte de production du droit. Donc la rupture avec l'État, avec Kelsen, est vraiment frontale. De cette façon, même le juge est appelé dans une certaine mesure à participer à l'activité législative en transformant le produit semi-fini, c'est la terminologie de Merkel, c'est-à-dire la loi, en produit fini, concret, qui s'applique à des situations pratiques réelles. Kelsen ensuite s'est complètement rangé, presque dans les termes même de Merkel, à cette analyse. Et la surprise de ce renversement est double. D'abord, contrairement à ce qu'on croit, Merkel a eu une influence considérable sur Kelsen. La théorie pure du droit, la théorie kelsenienne, est très fortement imprégnée de merkelisme, même si Kelsen n'en a pas eu suffisamment conscience. Il y a un deuxième élément de surprise, c'est que 150 ans avant la critique merkelienne de la théorie de Kelsen, Bentham avait fait à peu près la même chose. Bentham distingue deux types de pouvoirs, que j'ai traduit, c'est « power of imperation », que j'ai traduit par « pouvoir d'impération », pour ne pas traduire « pouvoir normatif ».« Pouvoir normatif », ce serait évidemment la traduction la plus exacte, mais ça me semblerait prédéterminer la thèse de fond d'assimilation de Bentham et Kelsen, ce que je préfère pour eux. Donc deux types de pouvoir d'impération, un pouvoir qui agit sur des classes, un pouvoir qui agit sur des situations concrètes, donc pouvoir des classibus ou pouvoir des singulis. Alors, concernant le pouvoir d'impération des classibus, Bentham dit la chose suivante. Un législateur, en émettant une loi qui devra être générale, doit, dans la mesure où il entend qu'elle soit générale, utiliser des termes ou des noms généraux. Par exemple, les voleurs, en général. Ou les juges, en général. Les voleurs doivent punir, les juges, pardon, doivent punir les voleurs. Et Bentham dit la chose suivante. Imaginons-le donc, le législateur, après qu'il a pris un tel nom générique, les voleurs des juges. Par ce nom, une classe, supposons de sujet, est présente. Cette classe, considérée à un moment déterminé, est composée d'un certain nombre d'individus. Et Bentham se dit, concernant ces individus, alors, par quel moyen ont-ils été amenés à se trouver agrégés à cette classe? Qu'est-ce qui a fait que M. Dupont a été agrégé à la classe des couleurs? Qu'est-ce qui a fait que M. X a été agrégé à la classe des juges? Bentham dit que si cette agrégation dépend de la volonté d'un individu, eh bien cette personne, cet individu, a un pouvoir qu'il appelle le pouvoir d'agrégation. Et par exemple, c'est un jury populaire qui a décidé d'agréger M. Dupont dans la classe des voleurs. C'est le pouvoir exécutif qui a décidé d'agréger M. X à la fonction de juge. Donc l'argumentation n'est pas sans analogie avec Merkel, dans la mesure où l'idée, c'est que la norme générale n'est pas toujours complète, même rarement complète, et donc il faut intervention d'un pouvoir qui est vraiment un pouvoir normatif, justiciable de la même analyse que le pouvoir de produire des lois, pour concrétiser ces lois. Ces entités générales et individuelles s'organisent selon une relation fonctionnelle relativement logique. Les entités individuelles ont pour rôle de concrétiser les entités générales, de les appliquer au droit, de les appliquer aux situations concrètes. Et Kelsen se voit reprocher par Merkel d'opposer trop nettement l'application et la création du droit. Et la critique de Merkel, on la trouve déjà chez Kelsen. Kelsen est très hostile à l'idée que la législation ne soit pas de la même nature que la juridiction, l'exécution. Et pour Bentham, donc ça c'est une théorie que Malik a abordée, il y a l'idée que toutes les entités juridiques doivent être reconduites à la volonté du souverain, mais évidemment, le souverain ne peut pas adopter toutes les lois lui-même. Dans certains cas, il adopte les lois élaborées par d'autres. C'est la théorie de l'adoption de Bentham. Et il dit que lorsque le législateur fait les lois lui-même, ces lois sont l'œuvre du législateur seul. Et lorsque tel n'est pas le cas, les secondes, donc ces lois, sont celles du législateur et du pouvoir subordonné de manière conjointe. Dans le premier cas, les ordres qui sont présentés par le législateur lui-même existent in actu. Dans le second, ils ne peuvent être conçus comme existants que in potentia. À mon avis, on retrouve l'idée merkelienne d'un produit semi-fini lorsque la loi est générale et d'un produit qui doit être, qui n'est que potentiel, complété, concrétisé par des autorités inférieures qui vont l'appliquer aux situations concrètes. Et donc, la création du droit, l'application du droit, chez Merkel comme chez Bentham, se trouve étroitement associée. Lorsqu'on crée une norme, une règle individuelle, on applique la règle supérieure. Et analytiquement, il en résulte que la population des entités juridiques élémentaires est beaucoup plus vaste chez Merkel et Bentham que chez le premier Kelsen. Chez le premier Kelsen, il n'y a que la loi. Chez Merkel et Bentham, il y a les ordres émis par les juges, la loi, les ordres administratifs, les ordres militaires, les contrats entre particuliers, les testaments, les actes juridiques privés. Toute chose que Kelsen n'acceptera que dans un deuxième temps de sa pensée. Alors, le droit. C'est donc ce phénomène qui se construit de manière graduelle, c'est ce phénomène aussi qui est constamment renouvelé. Chez Merkel, c'est clair, chez Bentham, c'est relativement clair aussi, selon deux axes. Un axe horizontal, il élabore, comme Malik l'a dit, une logique de la volonté qui est très proche de la logique des normes, de la logique déontique qui sera développée à partir du milieu du XXe siècle. Et il développe la théorie suivante. Lorsqu'une même autorité émet des lois, celles-ci peuvent, lorsqu'elles se succèdent dans le temps, être en conflit les unes avec les autres. Elles peuvent étendre la portée d'une première loi, ce sont les lois extensives, elles peuvent répéter la portée de la première loi, ce sont les lois réitératives, mais elles peuvent, et c'est là que c'est le plus intéressant, différer de la précédente, et donc altérer la précédente loi, ce sont les lois altératives. Et Bentham va développer un autre concept, lorsque, cette fois, ce n'est pas qu'une seule autorité qui est en cause et qui émet des lois qui se succèdent dans le temps, mais lorsque plusieurs autorités sont en cause. Alors c'est un passage qui est dans Of Laws in General, sur lequel je m'appuie, c'est un passage qui disparaîtra de la nouvelle édition du texte, vraisemblablement, et c'est à cause du chagrin. On va voir pourquoi. Chez Bentham et chez Kelsen et Merkel, l'idée d'hiérarchie des normes est relativement facile à identifier, donc je n'y reviens pas, c'est bien un rapport de dépendance entre les productions normatives. lorsque vous êtes une autorité inférieure, vous produisez une norme qui nécessairement est en accord avec les conditions de production fixées par les normes supérieures, et ainsi de suite. Chez Bentham, dans certains de ses textes, même si on ne peut pas dire, évidemment, ce sera abusif, que la théorie de la hiérarchie des normes est clairement exprimée, il y a déjà une théorie de la validité qui est en germe. Le terme valide est employé par Bentham, alors qu'il n'y a rien de plus fictionnel. Et il y a cet embryon de théorie de la hiérarchie des normes avec l'idée de repugnancy. Donc, je vais traduire par répugnance, faute de mieux. La repugnancy, c'est l'idée d'une loi qui intervient en contradiction avec une loi préexistante, mais qui émane d'une autre autorité, d'une autorité supérieure. Et Bentham imagine une situation de délégation de pouvoir comme il y en a entre le législateur anglais et les législateurs coloniaux. Bentham dit en gros, première idée, si il y a un pouvoir qui est délégué, c'est pour qu'il fasse ce qu'il veut. Donc il y a très peu de chances qu'il y ait des contradictions. Le délégant lui dit, vas-y, je te donne le pouvoir pour faire ce que tu veux sur cette portion de territoire, par exemple. Et il dit qu'il y a quand même deux cas où il peut y avoir contradiction. Ceci étant la règle générale, elle connaît deux exceptions. Première exception, lorsque la règle provinciale, la règle dans la colonie, est contraire à l'une des réserves de supériorité qui sont déjà introduites dans la charte qui délègue le pouvoir. Deuxième contradiction possible, deuxième situation de contradiction possible, lorsqu'elle est contraire à une règle subséquente que la législature de la métropole élaborée avec l'intention expresse qu'elle s'applique à la province. Telles sont donc les deux seules hypothèses de repugnancy, telles que la signification du terme repugnant appliquée à des règles, donc des règles qui viennent postérieurement à des précédentes, diffère de celle du terme altérate. Alors, il n'y a pas ici l'idée d'une hiérarchie des normes à la Kelsen, à la Merkel, parfaitement articulée, mais à mon avis, il y a tous les éléments fondamentaux, qui sont consubstantiels à une théorie dynamique du droit et à celle des auteurs viennois. Si l'idée d'un conflit de prévalence, d'un conflit de valeur juridique entre des normes émises par des autorités supérieures et des normes émises par des autorités inférieures. Et chez l'un comme chez l'autre, il y a l'idée de cette structure hiérarchisée de l'ordre juridique avec un conflit entre normes qui ne se résout pas de manière temporelle. C'est pas parce que la loi est postérieure qu'elle prime sur la loi antérieure, mais c'est un problème de ce que Merkel va appeler, donc 150 ans à 150 ans de distance, la force active et la force passive. La norme supérieure a une force passive supérieure à la norme inférieure. Elle résiste à l'abrogation par la norme inférieure. Et elle a une force active supérieure, c'est-à-dire que la norme supérieure peut abroger la norme inférieure. Et chez Bentham, à peu près tous les éléments pour penser ce qui est le cœur de la théorie dynamique viennoise sont présents donc dans ces quelques pages. C'est vraiment 34 pages du chapitre 10 d'Orflos qui sont employées dans ce sujet. Alors, une fois que l'on peut dire qu'il y a ces éléments de rapprochement entre les deux, j'en arrive au cœur de ce que j'ai annoncé. Une fois que la théorie dynamique du droit s'inscrit dans la pensée kelsénienne initiale, et c'est vraiment le fruit de la réflexion de Merkel, une fois qu'elle est présente dans la théorie de Bentham, ce qu'on observe, c'est que par sa mécanique propre, elle va engendrer des conséquences conceptuelles qui vont mettre à mal le reste de l'édifice théorique. Lorsque vous vous intéressez à la hiérarchie des normes, vous vous intéressez mécaniquement à l'idée qu'il va y avoir des pouvoirs subordonnés qui vont produire du droit en accord avec les normes supérieures. Il va y avoir l'activité de certains individus qui va être productrice de droit. Mécaniquement, ça vous conduit à vous intéresser aux éléments des discours juridiques qui vont conférer ces pouvoirs. Et l'une des techniques pour laquelle j'ai plaidé dans un autre contexte, pour appréhender, pour étudier ces éléments de discours juridique qui confèrent des pouvoirs, c'est d'adopter un concept particulier de normes d'habilitation. Et Bentham et Kelsen, c'est là qu'ils refusent le deuxième normativisme, l'idée qu'il puisse y avoir deux types de normes, refusent l'idée d'un concept de normes d'habilitation. Chez Kelsen, c'est très net, au début de sa vie, pour lui, il y a des normes prescriptives et rien d'autre, tout le reste, ce sont des fragments de normes, et ou alors des prescriptions exprimées de manière indirecte, et notamment les énoncés qui confèrent des pouvoirs chez Kelsen. Il dit « je ne nie pas du tout que ça existe, mais le langage du législateur conceptuellement m'importe peu, et conceptuellement le langage du législateur, je le réélabore en entité juridique fondamentale, pour moi, en norme juridique. Et Kelsen propose par exemple, je donne cet exemple, une théorie selon laquelle les énoncés qui donnent des pouvoirs sont des prescriptions, simplement formulées de manière indirecte. Il dit, si une norme constitutionnelle habilite l'organe législatif à poser des normes, la fonction normative de l'habilitation à poser des normes peut être réduite à la fonction de commander, donc réduction de la norme d'habilitation éventuelle à la prescription. La norme supérieure qui habilite à ce que des normes inférieures soient posées peut être représentée comme une norme hypothétique générale qui prescrit que, sous la condition déterminée dans la norme inférieure par l'organe déterminé dans la norme supérieure, doit intervenir la conséquence déterminée. En gros, le législateur n'est pas destinataire d'une norme d'habilitation à produire des normes, c'est simplement nous, les sujets de droit, qui avons l'obligation d'obéir à ce que dit le législateur. Pas de norme d'habilitation du législateur, simplement une obligation pour nous de faire certaines choses dans certaines conditions, la condition qu'une entité appelée législateur demande des choses. Et Kelsen, à la fin de sa vie, va complètement rompre avec cette idée et adopter un concept propre de norme d'habilitation. Il le fait à peu près à 50 ans de distance de Merkel. Merkel, dès 1917-1918, a un concept de norme d'habilitation. Ma thèse, c'est que Kelsen ne s'est pas rendu compte de la portée de l'adoption de la théorie dynamique du droit de Merkel pour sa propre théorie conceptuelle. Il essaye de garder les concepts qu'il a forgés en 1911, dans sa thèse, et de réceptionner la théorie de Merkel, mais il ne voit pas que ça craque de toute part une fois qu'on insère la théorie de Merkel dans l'économie de la théorie. Kelsen finit par l'admettre à la fin de sa vie. Je pense que la théorie générale des normes de Kelsen, c'est plus du kelsenisme, ça, on l'a déjà dit, c'est du merkelisme. Une fois que Kelsen a compris que Merkel avait raison, et finalement, il reprend à peu près toutes ses analyses. Alors, chez Delta, maintenant, on trouve la même stratégie d'évitement du concept de norme d'habilitation ou du concept de règle qui confère des pouvoirs. Et Delta, très curieusement, identifie deux manières au moins d'échapper à la création d'un concept propre de norme d'habilitation, la théorie des fragments de normes, que je n'ai pas développée mais qui est chez Kelsen, et la théorie des prescriptions indirectes. Maintenant, la chose suivante, concernant la forme ou la manière selon laquelle on peut conférer un pouvoir, elle peut l'être par permission législative à l'autorité, mais elle peut également l'être par un ordre législatif, un ordre adressé immédiatement à ceux dont on entend faire les sujets du pouvoir. Donc c'est exactement la théorie des prescriptions indirectes. On n'habilite pas une autorité, on commande à des gens de l'obéir. Et donc il y a un seul concept de normes, les normes prescriptives. Alors chez Delta, il y a une seule occurrence, à ma connaissance, et sous réserve évidemment de l'utilisation de manuscrits supplémentaires, dans laquelle Delta semble admettre un concept de normes d'habilitation ou de règles qui confèrent des pouvoirs. Une seule occurrence, et encore c'est dans les œuvres éditées par Dumont. Donc on ne sait pas si c'est la main de Kelsen, de Delta, ou si c'est Dumont qui l'écrit. Et il dit « Toutes les lois sont coercitives, excepté les lois constitutionnelles qui créent des pouvoirs et les lois qui révoquent des lois coercitives. » Et alors selon des éléments que je n'ai pas le loisir de développer maintenant, il y a quand même chez Delta tout un tas d'éléments qui permettent de penser le concept de norme d'habilitation, ce que j'ai tenté de faire ailleurs. Et l'idée, c'est que une fois travaillé dans toutes ces implications, dans toutes ces ramifications, l'adoption d'une thèse dynamique, donc l'idée que le droit se crée progressivement avec des normes générales, des normes individuelles, conduit mécaniquement, sans que le veuillent les auteurs, à des conséquences conceptuelles. Kelsen a mis toute sa vie à s'en rendre compte, et 40-50 ans, et Delta, chez lui, c'est beaucoup plus clair et c'est très explicite chez Merkel. Donc, ce qui m'a étonné dans ces impressions de lecture, en parcourant les livres des uns et des autres, c'est cette proximité, le fait qu'on trouve des expressions parfois extrêmement proches, et le fait qu'on trouve une commune trame conceptuelle. Alors, sans vouloir réifier les choses, sans vouloir dire qu'il y a une nature contraignante de la réflexion dynamique, je dois avouer mon étonnement, et puis aussi mon émerveillement devant cette ligne conceptuelle. Cette trame argumentative relativement structurée, relativement explicite, qu'on peut reconstruire, qui est très claire chez Merkel, mais qu'on peut reconstruire sans trop de difficultés chez Merkel. Et c'était l'essentiel des impressions de lecture que je voudrais formuler. La suite de l'investigation consisterait à à essayer de mesurer pourquoi, à 150 ans de distance, dans un contexte anglais, de common law, Bentham pense ces choses-là. Comment, conceptuellement, il est venu à penser les concepts qui apparaissent chez Merkel et Mikkelsen au début du XXe siècle, dans un État autrichien relativement structuré, avec une bureaucratie. Ce qui est d'autant plus problématique, alors ce serait une recherche historique, mais ce qui est d'autant plus problématique, c'est que l'État bureaucratique que Merkel et Mikkelsen connaissent, Bentham ne le connaît pas, évidemment, mais Bentham l'imagine. Dans son code constitutionnel, il y a toute une théorie de la bureaucratie qui est très proche de celle de Weber. Donc sur le plan historique, il y a cette hypothèse à faire, mais qui est très, très perturbante, c'est que les uns et les autres sont contraints par le phénomène juridique qu'ils ont sous les yeux d'adopter cette théorie dynamique qui met en cause, par sa dynamique propre, par son mouvement propre, leur concept. Les premiers, Kelsen et Merkel, parce qu'ils ont sous les yeux cet ordre juridique, les deuxièmes et le second, le dernier, Bentham, non pas parce qu'il a cet ordre juridique sous les yeux, mais parce qu'il est capable de l'imaginer, il est capable de l'inventer. Et ce sont ensuite ses disciples qui le concrétiseront en Angleterre au cours du XIXe siècle. Donc à 10 ans de distance et à 10 ans du mémoire de DEA auquel tu faisais allusion, je dois confesser que je ne cesse pas d'être surpris et émerveillé par Bentham. Merci.